La première fois, c'était en Thaïlande.
À Naples.
Malte, et je suis restée 2 semaines et demie en Grèce.
À Amsterdam.
À Barcelone.
En Thaïlande.
En Italie.
En Indonésie, donc à Bali.
3 mois seule en Australie.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 15e épisode de La Bougeotte. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est les retrouvailles. On est toutes les trois ensemble au même endroit.
Incroyable.
Oh yeah.
Incroyable.
Parce que Daisy, en ce moment, eh bien, tu es en France. Et on espère, pour toi, que ça ne va pas durer trop longtemps, pas vrai?
Pour moi, tu dis pas ça parce que je squatte chez toi et que t'en as marre. Règlement de compte. Oui, c'est vrai, j'avais évoqué déjà la dernière fois que j'allais rentrer en France après un petit passage enfin à Istanbul. Donc ça, c'est fait. En principe, je pensais déjà être de retour en Iran, n'est-ce pas? Parce que mon billet était pour la semaine dernière. Mais beauté de la bureaucratie iranienne, je suis toujours là. Hein. Donc voilà. Donc comme je suis un peu superstitieuse, j'aime pas trop en dire plus. Mais j'espère avoir bientôt mon prochain visa et devenir pour de bon une expat là-bas. Donc croisez les doigts pour moi les meufs, s'il vous plaît.
On croise les doigts.
Voilà.
Et là, elle vient de toucher du bois, ce qui est vraiment... pas radiophonique, mais...
Surtout que c'est pas vraiment une partie en bois.
Et puis en plus, c'était pas du tout du bois.
Ce qui m'a semblé, ça m'a inquiété. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Et vous les filles, comment ça va?
Eh ben ça va, ça fait trop plaisir d'être toutes les trois réunies pour cet épisode. Moi, je trouve ça voilà, un peu chou. Donc
oui,
ma cheesiness... is back. Et sinon, les meufs, moi, c'était un peu un été de la loose pour moi, pour être honnête, parce que je suis pas trop partie en vacances, j'étais un peu fatiguée et je me suis pété le pied, comme Neymar, voilà, le métatarse.
Oh, fameux.
Quitte à se faire mal, hein, autant que ça sonne bien. Mais voilà, donc c'était un peu la période de la loose, mais là, je sens que c'est en train de repartir, donc ça va déjà mieux.
Attends.
Ouais,
du bois aussi.
Merci.
C'est pas moi qui monte. Hein.
Et vous vous souvenez de Magali qui avait témoigné dans un de nos podcasts? Et ben elle me rend visite en ce moment à Paris. Et du coup, ça fait trop bien de la retrouver. Ça me rappelle plein de souvenirs du Canada. Et voilà, donc j'ai des projets de voyage aussi pour l'année prochaine, mais c'est un peu tôt pour en dire plus.
Cool.
Et toi, Marine?
Moi, c'est un peu une rentrée sur les chapeaux de roue puisque je réalise un docu. Et j'ai adopté une petite chatonne. Et là, on est chez moi. Et justement, il y a Max à l'instant même qui est avec nous et qui joue à côté de nous.
Et elle est beaucoup
Max
trop chou.
Et je suis trop gaga.
Une petite boule de poils toute noire, trop belle.
Voilà. Et sinon, cet été, moi, j'ai eu pas mal la bougeotte. J'ai pas pu trop m'éloigner, justement à cause de ce projet de docu. J'ai fait le sud-est, le sud-ouest, le centre, le nord.
C'est tout.
Ça m'a quand même bien fait bouger, j'avoue. Même pour des petits voyages, ça fait quand même du bien. Voilà.
Pas mal, pas mal. Bon alors, on va peut-être pas passer un quart d'heure à raconter nos vies. Hein,
mais sinon, je sais ronronner, si vous voulez, je peux ronronner.
Oui, par contre, je veux bien, voilà. Mais non.
Talent caché.
Pas mal.
Ça, c'est radiophonique pour le coup. Waouh. Je suis tellement impressionnée. Je sais pas comment rebondir là-dessus.
On peut pas.
Ronronnement féminin est un tabou qu'il faut briser. Et attention, dans cet épisode, justement, on va briser d'autres tabous.
Oh.
Tout à fait. Voilà, on voulait se dresser face au diktat du kiff en voyage et dire que parfois, parfois, ça se passe pas toujours aussi bien que ce qu'on avait prévu et que on a tout simplement le droit d'être aussi déçu par ces voyages, quoi.
C'est un sujet qui m'est tombé dessus un peu par hasard. J'étais en soirée, je parlais avec deux copines qui sont Lucie et Charlotte et elles ont toutes les deux évoqué ça, c'est-à-dire quand le voyage, c'est pas si bien que ça. Donc je me suis dit que c'était quelque chose d'important, dont il fallait absolument qu'on parle ici aussi. Alors je les ai réunis autour d'un saladier de planteurs et on a papoté de ces voyages qui les ont déçus. Je vous laisse écouter ça. Alors c'est Marine, je fais un format un petit peu différent aujourd'hui. Je suis avec Lucie.
Bonjour.
Et avec Charlotte.
Bonjour.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvés il y a quelques semaines dans une soirée et vous m'avez toutes les deux parlé d'un sujet auquel on n'avait pas forcément pensé à la bougeotte. C'est la question de quand un voyage vous déçoit, en fait. Est-ce que vous pouvez, l'une et l'autre, nous raconter un petit peu ce voyage qui vous a déçu?
Alors, moi, je t'avais parlé de ce voyage en particulier qui m'a déçu, qui était un voyage en Corée du Sud. Donc, il faut savoir que c'était la deuxième fois que j'y allais. Mais c'était la première fois que je voyageais seule. Donc pour le contexte, j'étais partie la première fois en Corée avec une copine. On est partie 3 semaines et demie. C'était en plus ma première fois en dehors de l'Europe. C'était voilà, quelque chose de très très excitant pour moi. C'était un pays qui me fascinait. J'ai fait ensuite 3 ans de licence de coréen. Et à l'issue de ces 3 ans, j'ai pu avoir une bourse de voyage pour y retourner. Et je me suis dit, bah, c'est l'occasion, après 3 ans, à vraiment avoir mieux compris la culture, à avoir compris son histoire, à avoir appris la langue, je vais y retourner. Mais je pense que je me suis dit, je peux y aller seule, parce que je vais pouvoir interagir avec les gens, je vais pouvoir avoir un regard différent sur des choses que j'avais vues 4 ans auparavant. Donc pas mal d'enthousiasme et en même temps un peu de crainte évidemment, parce que premier voyage seul, en plus assez loin, où je me suis dit si ça se passe mal, voilà, y a personne que je peux appeler pour venir me chercher d'une certaine manière. Et en fait dès le début pour moi ça a été déjà difficile, donc le départ parce que j'avais peur, etc. Et parce que quand je suis arrivée, j'avais pris une chambre en guest house, donc chambre collective, on était 6, on devait être 6 filles dedans. Et je m'étais dit, mais ça va être le bon plan pour rencontrer des personnes. Et en fait, dans la guest house, bah, je me suis rendu compte que la plupart des personnes étaient juste là de passage. C'était vraiment, je dors là, mais j'ai aucune envie d'interagir avec le reste du monde. Et ce problème de communication est resté tout le long du voyage. Donc je suis restée un mois en tout. J'ai fait plusieurs villes. Et en fait, chaque fois que je rencontrais des Coréens, eux, ils voulaient me parler en anglais parce qu'ils voulaient pratiquer l'anglais. Et les interactions n'allaient pas très loin, c'était juste « bah je suis trop content d'avoir dit 3 mots, mais j'ai aucune envie de poursuivre plus que là l'interaction. » Pour moi, c'était juste « je rencontre une étrangère dans la rue, c'est rigolo. » Et évidemment, bah, les gens ont leur vie, et toi, t'es complètement en décalage par rapport à ça. Et j'avais pas prévu, en fait, ça c'est un regret, j'avais pas prévu de moment précis, en quelque sorte comme une université d'été, ou des cours, ou j'en sais rien, où j'allais rencontrer des gens. Et vraiment, les vraies interactions que j'ai eues pendant ce voyage, c'était des interactions avec d'autres étrangers ou d'autres étrangères. Donc un peu étonnant pour moi, où je m'étais dit, bah, j'y vais pour pratiquer la langue, ça va être génial. Et en fait, bah non, j'ai rencontré des étrangers, et pas beaucoup en plus. Ça a été à quelques événements auxquels je me suis rendue parce que je me sentais vachement seule. Et donc pour moi, ça a été le voyage un peu de la solitude. Je me dis, j'arrive pas à interagir avec les gens. Ou alors, je me retrouve avec des étrangers, parfois en plus avec des idées, mais totalement, enfin, radicalement différentes des miennes. Mais parce que t'es au bout d'un moment, quand ça fait 2 semaines que t'as presque pas interagi de vive voix avec un autre être humain, t'es juste trop content d'avoir quelqu'un qui te parle. Et en même temps, donc, il y a eu aussi des choses un peu étonnantes comme ça, où je me dis des gens auxquels j'aurais jamais parlé en temps normal. Comme j'ai passé toute une soirée avec un Irlandais qui était pro-gun. Fan de Trump.
Yes.
Et oh là là, la rencontre totalement inattendue pour moi. Mais la plupart du temps, c'était ça. C'était, bon, bah, je sors et bon, bah, je mange et il n'y a personne. Je vais vers mes visites parce qu'il y a des trucs que j'ai envie de voir, mais il n'y a personne. C'est waouh, ce paysage est magnifique, mais il n'y a personne avec moi. Et c'est dur, en fait. Je me dis, 4 jours, 5 jours, des fois, ça fait du bien d'être seule, mais là, ça, c'était vraiment pesant. Et à la fin, en fait, au bout de 3 semaines... J'étais juste dans la perspective de « je veux rentrer ». Je me dis « quand est-ce que c'est fini ? Je rentre, j'ai hâte de reprendre l'avion et de rentrer.
Ouais. » Donc c'était vraiment la solitude, quoi, le truc ouais. Qui t'a pesé. Et toi, alors, du coup, c'était quoi ce voyage ?
Alors bah, moi, c'est marrant parce qu'en fait, c'est pas du tout le même voyage, c'est pas du tout les mêmes circonstances, mais c'est un peu le même résultat. Moi, je suis partie, en fait, 8 mois en Nouvelle-Zélande dans le cadre du visa vacances-travail. Et en fait, je suis partie parce que j'avais besoin d'être seule. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un des voyages les plus durs que j'ai fait. Et pourtant, j'en ai fait pas mal, parce que c'est vrai que du coup, contrairement à Charlotte, moi, j'ai un peu l'habitude de voyager seule. J'ai fait beaucoup de pays toute seule, sur des longues durées, et ça s'est toujours très, très bien passé. Mais là, il y avait un côté où bah, y avait un peu de la mentalité sur place qui est très différente de la mentalité française. Puis la façon que j'avais choisi de voyager aussi impliquait aussi d'autres difficultés. Parce que j'avais choisi, comme énormément de voyageurs en visa vacances-travail là-bas, de m'acheter un van et de vivre dedans. Pour être un peu plus linéaire dans mon récit, on va dire que les premiers mois étaient super. Enfin, vraiment, 3-4 premiers mois impeccables, où du coup, j'avais trouvé cette solitude que je cherchais, où j'avais ce dépaysement. Et puis, c'était tellement agréable d'être avec des gens qui sont toujours heureux, toujours polis, toujours gentils, vraiment très accueillants et tout ça. Enfin, c'est vraiment le pays des bisounours. Sauf que bah, voilà, le problème, c'est que passé 3-4 mois au pays des bisounours, eh ben, on se demande si les bisounours ils savent avoir des débats et ils savent parler d'autre chose que de cinéma et de musique, en fait. Et moi, c'est là où ça a commencé à être problématique, parce que bon, bah, déjà, j'ai des petits problèmes, on va dire, de dépression qui tombent de temps en temps. Et c'est vrai que dans ces moments-là, ne pas avoir de gens à qui on peut vraiment expliquer comment on se sent, c'est très dur parce que tu peux pas infliger ça à des personnes que tu as rencontrées en soirée comme ça. Et encore moins à des gens où tu sens pas du tout s'ils t'apprécient ou pas. Et moi, c'était vraiment le gros problème que j'ai eu en Nouvelle-Zélande, c'est que... En fait, c'est la mentalité, alors je crois que c'est anglo-saxonne, après peut-être que je me plante, hein, mais c'est comme ça que je l'appelle en tout cas, c'est le côté où ils veulent tellement pas être blessants, et ils veulent être polis en permanence avec tout le monde, que du coup, ils vont dire amen à tout, et ils vont te sourire, ils vont te dire oui, mais peut-être que eux, derrière, en fait, tu les saoules, et qu'ils n'ont pas envie de te voir, et qu'en fait, ce que tu leur racontes, ça les fait chier, mais ils ne vont pas te le faire sentir une seule seconde. Ou en tout cas, moi, je n'ai pas, pas les codes pour voir quand je les saoule. Du coup, tu te dis, ah bah, les gens sont sympas au début, puis après, tu te rends compte que mais ça ne va jamais plus loin. Ça ne va jamais plus loin qu'une soirée où bah, tu te marres bien, hein, c'est sympa, mais tu sens que tu ne peux pas aller leur raconter un peu pourquoi tu n'es pas bien, hein, pourquoi tu es un peu down ces derniers jours. Quoi. Et quand tu es à un endroit qui est à 12 heures de décalage horaire de ta famille et de tes amis, c'est un peu compliqué de te dire bah, « je vais appeler les potes à la rescousse » parce que, bah, ils sont en train de dormir en fait. Et toi, tu n'as pas envie d'être la privilégiée qui voyage à l'autre bout du monde et qui va en plus de ça faire chier ses potes qui turbinent à Paris en leur disant « j'ai mes petits problèmes de voyageuse, je ne me sens pas très bien » alors qu'ils font voilà, métro, boulot, dodo. Donc tu te sens un petit peu... Enfin, tu as deux sentiments, je trouve, là-dessus d'imposteur en fait, où tu n'as pas le droit... de toute façon, d'être malheureux en voyage. Parce que, alors oui, c'est une chance incroyable de voyager, mais il ne faut pas assumer que c'est facile pour autant. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvée un peu piégée là-dedans, du coup, en Nouvelle-Zélande, où voilà, je suis tombée en dépression extrêmement profonde je crois que c'était au bout de 6 mois sur place. Et quand déjà tu souffres un petit peu de la solitude et du décalage culturel qu'il peut y avoir... Ça s'accélère très rapidement en fait. Et ça a pas loupé. Du coup, moi, à la fin, dès qu'il y avait des Français, en fait, je leur courais après pour avoir des discussions et des débats et qu'on soit pas d'accord sur des trucs. Et voilà, en fait, ça s'est vraiment retourné complètement. Et du coup, j'avais plus qu'une hâte, c'était rentrer en France. Alors que, en vrai, quand je suis partie en Nouvelle-Zélande, mon objectif à la base, c'était de juste pas rentrer en France. J'étais partie, j'avais mon visa pour la Nouvelle-Zélande, mais j'avais aussi mon visa pour l'Australie qui suivait derrière. Et j'avais prévu un voyage de 5 à 10 ans, en fait. Ouais, je voyais large, dans petite mesure. Et clairement, bah voilà, au bout de même pas un an, la première excuse que j'ai trouvée pour rentrer, je l'ai prise et je suis rentrée avec une seule hâte, aller chez le psy.
Ok, en gros, voilà.
Justement, enfin, moi, c'est la question que je voulais poser, parce que je sais que pour moi, ça a été le cas. C'est les répercussions après que ce voyage a pu avoir sur toi. Parce que des fois, on a un peu l'impression que tu rentres, le voyage est fini, c'était génial, tu racontes à tout le monde à quel point c'était trop cool. Et toi, tu rentres, t'as pas envie de dire « alors c'était trop cool !» Et toi, tu dis bah moi non. En fait, vous, je sais pas pourquoi vous, ça s'est bien passé, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Bah, presque, je me dis, c'est moi qui ai mal planifié, est-ce que y a des choses que j'aurais... Enfin, évidemment, je pense qu'il y a des choses à anticiper aussi quand tu pars seule pour la première fois. Mais presque une forme de culpabilisation, de me dire « bah, j'ai de la chance ». Tout le monde a bien aimé. Pourquoi moi, j'ai pas bien aimé? En plus, tu sais aussi, moi, j'avais eu une sorte de bourse pour y aller, mais t'as aussi dépensé ton propre argent dedans. C'est difficile. Et du coup, quand tu reviens, t'as cette déception. Donc, des fois, peut-être une auto-censure parce que t'as pas envie de dire à quel point ça s'est mal passé. Et ça peut même avoir des conséquences, moi, psychologiquement, sur plusieurs mois après.
Moi, je sais que j'appréhende maintenant à chaque fois qu'on me demande où est-ce que j'ai voyagé quand je dis que je suis allée en Nouvelle-Zélande. Mmh. Je sais que c'est un pays qui intéresse beaucoup parce que justement, c'est extrêmement facile d'y aller avec le visa et tout. Et j'appréhende qu'on me demande parce que je sais que je ne vais pas avoir une réponse qui va plaire. Et en fait, j'ai tellement peu eu de retour de « ah oui, mais moi aussi, j'ai été mal ou quoi » que du coup, je me sentais déjà, comme on disait, tu vois, le côté imposteur. Et puis... j'ai plus envie de re-raconter mon histoire pour qu'on me redise « Non mais attends, c'est n'importe quoi, il y a plein de gens qui ont adoré ce pays, pourquoi ? Enfin, c'est n'importe quoi, c'est toi qui as un problème, quoi. » Alors que si on en parle aujourd'hui, et clairement qu'on s'est retrouvés alors qu'on n'est pas dans des cercles très éloignés, hein, c'est que clairement, c'est pas non plus un truc aussi exceptionnel que ça, mais c'est juste qu'on n'en parle pas, quoi.
Ouais. Donc en plus du côté déception en voyage, vous avez ce tabou qui fait que c'est pas censé exister, entre guillemets, quoi.
C'est ça, il y a un peu cette idée de les vacances, c'est une chance, Le voyage, c'est les vacances, c'est une chance. Tu découvres un autre pays. T'as pas aussi envie de passer peut-être pour la personne qui est trop centrée sur sa propre culture et qui supporte pas la culture de l'autre. Alors, enfin, c'était pas directement ça, mais je me dis
ça n'a rien à voir.
C'est ça.
Fait.
Mais tu peux avoir peur de ça, de je vais à l'étranger. En fait, ça me plaît pas. Et alors que tu dis, ouais, parce que ça bouscule, parce que t'es dans ta zone de confort pour plein de raisons en fait. Et donc il y a ça. Et moi, je pensais même, enfin là, sur la question des conséquences. Moi, du coup, d'avoir eu cette solitude pendant plusieurs mois, je sais que j'ai été un petit peu après détachée des gens de façon générale pendant un moment où en fait, je me suis en quelque sorte, au fur et à mesure des jours, habituée à plus partager ce que je fais avec personne et à faire mes trucs dans mon coin. Et quand je suis revenue, bah j'ai fait la même chose en fait. Et j'ai commencé, voilà, à moins voir de gens, à moins solliciter. Et puis il se passait des trucs dans ma vie, je le racontais à personne parce que j'avais pris cette habitude. Et j'ai mis plusieurs mois en fait à quelque sorte à retrouver une vie sociale plus classique comme j'avais avant. En même temps, j'avais aussi un côté positif de, pour moi, mon premier voyage seul, de me dire je l'ai fait. Et au niveau confiance en moi, c'était quand même quelque chose d'important de j'ai été capable de le faire, je l'ai fait jusqu'au bout. Mais aussi de dire bah ouais mais c'est pas fait pour moi aussi et c'est pas grave.
Ça veut pas dire que c'est pas fait pour toi parce
oui,
que
oui mais je me dis peut-être enfin je sais pas mais potentiellement ou te dire t'as aussi cette idée que tu as de toi-même de ce que t'es capable de faire de ce que t'aimes et des fois tu te confrontes à la réalité tu dis mais en fait ça me plaît pas. Moi je me dis c'est ce pays que j'ai étudié pendant 3 ans et que je me dis ça va être super et d'arriver et te dire bah la déception tu dis qui était en plus liée aussi à mon parcours de dire merde je viens de passer 3 ans là-dedans quand même quoi. Et en fait, je me réorientais après. Juste après, je me suis réorientée. Parce que, à un moment de ma vie, j'avais même pensé à devenir prof de français et langue étrangère en Corée. Et là, je me dis, eh bien non. Non.
J'aimerais bien rebondir un truc sur... on avait un peu parlé au début de l'après, comment tu le gères. Ouais. Parce que c'est vrai que t'en avais pas mal parlé. Et pareil que toi, où t'as eu un après-coup, enfin, ouais. Ça, des espèces de blessures qui sont restées. Mmh. Moi, je sais que quand je suis rentrée de Nouvelle-Zélande, j'avais peur de repartir en voyage seule. Mmh. Alors que c'est comme ça que je voyage. Et c'était terrifiant parce que, justement, je sais que je tiens pas plus de 3 mois en place avant de devoir repartir parce qu'à Paris, j'étouffe. Mais bon, j'ai besoin d'être là pour travailler, etc. Et en fait, je trouve ça très dangereux qu'on n'en parle pas de à quel point, justement, ça peut te blesser.
Oui.
Et à quel point un voyage, bah, c'est pas facile, c'est pas... ça peut être simple, ça peut se passer à merveille de A à Z. Tu peux avoir un cul monstre et rouler mais tout seul jusqu'au bout. Mais ça peut aussi te casser, en fait, vraiment te détruire, t'amocher psychologiquement, rendre la suite compliquée. Et je trouve ça grave, en fait, que sur Internet, sur tous les réseaux de voyageurs qu'on peut trouver, c'est un thème qui est quasiment pas abordé. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu. Après, j'ai pas vraiment recherché, mais ce que tu trouves spontanément, c'est... Alors moi, j'étais là, c'était merveilleux. 3 semaines au paradis. Franchement, foncez. N'hésitez pas à voyager. Oubliez pas de voyager. Enfin, tous les slogans on te vend du voyage. Et je trouve ça très bien de vouloir encourager les gens à voyager. C'est une ouverture d'esprit. Mais je pense que si, le voyage, pour moi, ça m'a énormément aidé sur énormément de points. Je sais que... ça m'a donné énormément de confiance en moi de voyager seule. Énormément de points positifs à voyager et à voyager seule d'autant plus. Mais voilà, je trouve ça très dangereux d'encourager les gens à voyager en leur disant que c'est facile parce que même moi qui me considère en tout cas comme une voyageuse à minima expérimentée, je me suis bien cassé la gueule.
Bon, les meufs, je pense qu'on a fait le tour, non ?
Ouais, je pense.
Je pense que t'as beaucoup à dérocher là.
Tu vas bien t'amuser.
Merci beaucoup d'avoir répondu à cette question-là.
Merci à toi de nous avoir conviés.
Oui.
Et puis, on va continuer à boire un peu de rhum, et puis voilà.
Ouais, parce que je trouve qu'il reste du punch.
C'est important, ça.
C'est le plus important.
Allez, on coupe. Bisous.
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 Voilà, merci beaucoup les meufs d'avoir témoigné là-dessus et brisé ce tabou, mine de rien. Alors, rassurez-vous, depuis ces expériences, elles se sont remises. Lucie, qui effectivement ne peut pas rester en place plus de 3 mois, elle a affronté largement cette peur de repartir seule. Et ces derniers mois, elle a visité pas moins que le Guatemala, le Japon et elle vient de rentrer de Colombie-Britannique.
Allez là!
Et Charlotte, même si elle n'a pas eu l'occasion de refaire un grand voyage en solo, elle reste très fière de cette expérience et elle considère que ça lui a appris beaucoup de choses sur elle-même et sur la manière dont il faudrait qu'elle organise ses voyages à l'avenir. Quoi qu'il arrive, c'est des voyages qui les ont marqués et qui les ont changés. Ça laisse toujours une trace. La plupart du temps, c'est super positif, mais parfois, ça peut être plus compliqué.
Oui, et d'ailleurs, moi, ce sujet, il m'a tout de suite parlé, encore plus là, en entendant Lucie raconter tout ça, parce que ça parle vraiment de, je pense, ce qu'on appelle le choc culturel que rencontrent surtout les expats. Et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, justement, parce qu'il n'y a pas longtemps, je vous en avais parlé, j'étais un peu dans une phase où j'en avais marre de l'Iran, si, je vous jure, c'est vrai, et j'étais à deux doigts de tout laisser tomber, de rentrer, quoi.
Et pourquoi t'étais à deux doigts de tout lâcher ?
Bah, moi aussi, je dirais que la solitude, c'est ce qui a exacerbé les difficultés que tu peux avoir au quotidien, quoi. Encore que, bon, moi, j'ai la chance depuis le début d'avoir des gens très proches, iraniens, iraniennes à Téhéran, donc la solitude, elle est quand même assez relative. Mais malgré ça, bah, c'est vrai que c'est difficile de se reconstruire comme ça une vie, des relations du jour au lendemain. Et puis, bah, voilà, t'es loin de ta famille, tes amis, comme elle disait. Donc, dès que ça va pas, tu te sens super vite très seule, quoi.
C'est clair. Mais du coup, c'est ça qui t'a fait envisager de rentrer ?
Alors en fait, ouais, ce que ça a créé du moins, c'est que je me suis retrouvée dans une situation où vraiment j'étais dans le rejet. J'étais dans le rejet de la culture, du pays, des gens, de tout quoi. À cause de, maintenant je dirais, une incompréhension. Ou alors en tout cas une difficulté de ma part à accepter justement de comprendre l'autre. Mm-hmm. C'est un peu chelou comme ça, je vous l'accorde. Mais pour moi, tout est devenu super clair quand j'ai commencé à lire justement sur le sujet de la solitude chez l'expat.
Ah, et alors c'est quoi la solitude de l'expat ? Enfin, est-ce que t'as fait des découvertes là-dessus qui t'ont...
Oui, j'ai découvert déjà qu'on n'était pas seuls. Wouhou, scoop, comme d'hab. Voilà, plus sérieusement, j'ai découvert que les expats et les gens qui vivent globalement un peu longtemps à l'étranger, un peu longtemps, c'est très français, mais c'est pas grave, on passe toutes et tous par quatre phases de ce qu'on appelle donc le choc culturel. Alors la première phase, c'est la phase lune de miel. Tu kiffes tout autour parce que tout est nouveau, tout est beau, différent, tout ça. Les néons dans les rues, les trucs écrits dans une langue étrangère que t'arrives ou pas à lire. Vraiment, c'est le truc qu'en fait qu'on a quand on voyage très loin et qu'on découvre émerveillé une nouvelle culture. Donc ça, c'est la première phase, c'est cool. Ensuite, il y a la deuxième phase qui, elle, est moins cool. Et c'est celle dont je parlais moi plus tôt et qui ressemble beaucoup à ce qu'a vécu Lucie, je pense. Ça s'appelle la phase de frustration. Et ça décrit plutôt bien le truc. Tout est frustrant, irritant, énervant, les gens, le fait de ne pas pouvoir t'exprimer correctement, de ne pas comprendre, les malentendus qui sont liés aussi à des différences culturelles, quoi. Par exemple, Lucie, elle évoque le côté un peu anglo-saxon d'être toujours super courtois, mais du coup, toi en face, t'as pas ces codes-là, et du coup, ben, tu sais pas vraiment si on t'apprécie ou pas, et voilà, ça c'est une différence culturelle qui est dure à gérer.
Et c'est à cette période-là que tu t'es un petit peu renfermée sur toi-même. Tu nous en avais parlé, je crois.
Ouais, voilà, à cause de toutes ces différences et de ce rejet, que tu comprends pas la culture, etc., ben, t'as une tendance, justement, à te refermer sur toi et sur ta propre communauté. Donc, tu te rapproches, si possible, d'autres expats de ta nationalité. Et moi, en effet, c'est vrai qu'à ce moment-là, pile poil, je me suis mise à traîner tout le temps avec un groupe de Français et à dire à tout le monde autour de moi « Waouh, c'est tellement plus cool de parler avec des Français, on a les mêmes références, on se comprend tout de suite quand on fait des blagues, tout ça, voilà. »
C'est fou parce que c'est exactement ce qu'a dû Lucie aussi, quoi. Elle courait après les Français alors qu'elle les fuyait au début, là, elle courait après eux, quoi.
Voilà, la même pour moi.
Ouais, ouais, mais du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, t'es plus dans l'intégration, finalement. Donc... Enfin, comment on passe à la phase d'après, quoi ?
En fait, on enchaîne les phases un peu naturellement, je pense, avec le temps. Après, c'est vrai qu'il faut un peu d'effort aussi. Selon ce truc de choc culturel, il y a deux phases suivantes. Pour moi, elles se ressemblent. C'est celle de l'ajustement et celle de l'acceptation. Moi, de mon côté, j'avais tendance, avant de connaître tout ça, à dire que je me suis réconciliée avec l'Iran. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est quand on arrive enfin à mieux communiquer... Donc pour ça, bah, c'est important de faire l'effort d'apprendre la langue, forcément. On commence à comprendre vraiment mieux les us et coutumes, les habitudes. Et on prend soi-même, en fait, ces petites habitudes, quoi. Et puis, bah, en ce qui me concerne, pour les amitiés, ça a été de me dire, et j'y travaille encore, là, qu'il ne fallait pas que je m'attende non plus à rencontrer comme ça, demain, quelqu'un à qui je pouvais faire tout de suite part de mes états d'âme. Ça arrivera peut-être et ça serait super cool. Mais bon, en attendant, il faut que je sois proactive pour rencontrer du monde sans non plus mettre la barre trop haute et laisser le temps au temps pour parler comme une vieille, quoi.
Ah ben oui.
Merci.
Mais du coup, maintenant, tu penses que le choc culturel, il est derrière toi ?
Alors, j'irai peut-être pas jusque-là, hein, mais j'attends de voir ce que ça donne quand j'y retourne et je vous dirai. Et d'ailleurs, en fait, le choc culturel, il s'arrête pas vraiment à ce stade-là parce qu'apparemment, il y a aussi une phase bonus. Que je connais pas encore et je touche du bois. pour pas la connaître, c'est quand tu rentres et qu'à ce moment-là, bah, t'es plus chez toi nulle part. C'est-à-dire qu'à l'étranger, tu seras toujours l'étrangère. Et chez toi, bah, t'as rapporté un peu ces petits trucs de l'étranger avec toi, en toi, qui font te sentir aussi un petit peu parfois un ou une étrangère. Donc voilà, le choc culturel, après, tu le gardes avec toi finalement.
Mais moi, je suis super contente qu'on ait pu traiter ce sujet dans la bougeotte parce que, en fait, déjà, je vois passer pas mal de posts sur les réseaux sociaux relatifs à la déception en voyage. Et moi, je me suis identifiée au sonore qu'on vient d'entendre. Par exemple, le fait d'être dans une guest house et d'être vraiment en mode « t'as trop envie de rencontrer des gens, de pouvoir parler avec eux ». Et alors que t'essayes de faire le premier pas et de dire « coucou », et que tu vois que la personne, elle n'est pas du tout dans le même mood et que c'est pas du tout son kiff à ce moment-là de se dire qu'elle va sociabiliser, tu vois. Enfin, moi, c'est vraiment des trucs que j'ai vécu aussi en voyageant seule et où tu te dis « bon, ok, c'est un peu chiant, quoi ». C'est un peu relou. Et pareil, sur l'Inde, où je vous avais dit que pour moi, ça avait été difficile aussi d'accepter j'ai un discours sur un de mes voyages qui n'est pas spécialement enthousiasmant, positif. Je ne me suis pas non plus éclatée de ouf. Et que, en fait, voilà, c'est OK de pouvoir dire qu'on a été déçu d'un voyage et qu'on n'est pas forcément un ou une enfant gâtée si on ne kiffe pas en étant loin de chez soi, que c'est OK si ça ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Et voilà, que l'important, c'est de pouvoir identifier les problèmes, d'essayer de les résoudre, les contourner, et au pire du pire, se dire si je peux rentrer avant, je le fais, quoi.
Ouais, tout à fait, voilà. C'est s'écouter, voilà, en forme de conclusion mielleuse. Moi, j'ai envie de dire que ouais, ça nous renvoie à ce qu'on dit depuis le tout premier épisode. C'est-à-dire qu'il faut se faire confiance et s'écouter vraiment soi, quoi. On est les seuls à finalement savoir ce qui est vraiment bien pour nous ou pas.
Exactement, on le dit souvent, l'instinct, même si j'ai pas tout pu garder de notre conversation avec les filles, elles ont évoqué des pistes pour se sentir mieux face à cette solitude. Charlotte, par exemple, elle avait utilisé des applis pour rencontrer des gens lors d'événements qui étaient organisés. Et puis, Lucie, comme tu l'as dit, elle a fini par s'écouter et rentrer plus tôt. C'était ce dont elle avait besoin à cet instant-là. Et pas de problème, quoi. Dans tous les cas, écoutez-vous et parlez-en. Faut pas avoir honte, même si ça semble contre-intuitif. Vous avez besoin de parler et d'être entouré dans ces moments-là, et c'est normal.
Et la bougeotte est là pour ça aussi. Non, mais c'est vrai, on reçoit des petits messages et les filles nous parlent souvent de quand ça se passe hyper bien, mais on peut aussi dire et partager quand ça se passe moins bien.
Exactement.
Sur ce, on va vous laisser. C'est déjà la fin de ce 15e épisode. On vous dit à bientôt, on vous encourage à nous mettre des petits cœurs, des likes, à partager cet épisode. Et nous, on revient très bientôt dans un épisode qui parlera cette fois de voyage évidemment, mais aussi d'art et de féminisme. Voilà pour le teasing.
Allez, on vous fait des bisous.
À plus.
Ciao, ciao.
Non mais le ronronnement quoi, j'en reviens pas, tu peux me le refaire ?
Moi-même, ça me fait du bien.